Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Reprise ce vendredi à Bruxelles du dialogue entre Serbes et Kosovars qui est au point mort depuis plus d'un an. Cette reprise a l'ambition de chercher un compromis selon le président serbe. L'éclatement de l'ancienne Yougoslavie a précipité la séparation entre la Serbie et son ex-province du Kosovo. Une guerre d'indépendance engagée à la fin du siècle dernier a abouti à l'indépendance du Kosovo justement en 2008. Et depuis 10 ans, la réconciliation reste un objectif qui semble impossible à atteindre. Alors, Serbes et Kosovars peuvent-ils s'entendre? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, Sébastien Gricourt. Vous êtes un expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes un ancien conseiller politique dans les Balkans pour l'ONU et pour l'OTAN. Et vous êtes directeur de publication d'un ouvrage collectif qui s'appelle Kosovo, récit sur la construction d'un État. C'est aux éditions Non-Lieu. Bonsoir à vous, Sébastien Gricourt.
Bonsoir.
Et puis Loïc Trégourès, c'est lui spécialiste des Balkans et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Bonsoir Loïc Trégourès.
Bonsoir.
Alors, l'histoire moderne et plus ancienne des relations entre ces deux pays est marquée par la violence, par la guerre. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis l'effondrement de la Yougoslavie pour créer un tel contentieux entre les deux entités, serbes et kosovars? Je commence avec vous, Loïc Trégourès.
Bon, alors si on va très vite, au moment où la Yougoslavie rentre dans une dynamique de guerre et d'implosion, le Kosovo est déjà une province du sud de la Serbie dans laquelle vivent 90% d'Albanais et dont l'autonomie, garantie par la constitution yougoslave, a déjà été supprimée par le régime de Milošević. Néanmoins, dans la première partie des années 90, c'est donc la guerre en Croatie et en Bosnie qui occupe le devant de la scène, tandis que les Albanais du Kosovo mènent une rébellion, disons, pacifique, non violente. Dans la seconde partie des années 90, dans la mesure où le Kosovo est complètement oublié des accords de paix et de Dayton, une rébellion armée voit le jour, et donc c'est à ce moment-là, 98-19, que la guerre au Kosovo éclate, les bombardements de l'OTAN, et ensuite s'en suivent 9 ans de protectorat international, disons, avec la mission des Nations Unies, la MINUC, et son pendant militaire qui est toujours la CAFOR jusqu'à l'indépendance en 2008.
D'accord. Cette occupation, je dirais, par la communauté internationale du territoire kosovar date à peu près du début des années 2000, c'est ça?
Voilà, la MINUC et la CAFOR prennent place au Kosovo dès le vote de la résolution 1244, donc on est en mi-99.
D'accord. Pourquoi la Serbie, et je me tourne vers vous, Sébastien Gricourt, pourquoi la Serbie considère le Kosovo comme étant au cœur de son identité?
Ah, mais elle revient. C'est le problème aussi dans tous les États des Balkans, où il y a une historiographie que l'on aime cultiver, que l'on aime idéaliser. Donc on pourrait remonter au Moyen-Âge, où à l'époque, effectivement, le patriarcat serbe a été créé, d'où l'existence de nombreuses églises et d'un patriarcat. Ensuite, si on parle, bon, on va pas revenir au 7e siècle à l'arrivée des Slaves, qui est arrivé au milieu d'autres populations qui vivaient là déjà à cette époque-là. Ensuite, il y a une longue histoire depuis un siècle, depuis le début du 20e siècle aussi, de colonisation du Kosovo. Et puis tout cela s'est accéléré également pendant les années juste après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des populations aussi déplacées vers la Turquie d'ailleurs, qu'ils soient de Macédoine ou du Kosovo. Et puis une prise du pouvoir qui s'est accélérée de Belgrade sur le Kosovo, en sachant qu'il y a eu une libéralisation à un moment donné dans les années 70, mais que tout cela s'est à nouveau durci dès les années 80 et accéléré dès l'arrivée de Slobodan Milošević.
D'accord. Et la Serbie, d'ailleurs, ne reconnaît toujours pas l'indépendance du Kosovo.
Non, bien sûr que non. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le récit national serbe, le Kosovo, c'est le cœur de l'identité serbe. Donc ce conflit-là revêt une dimension immatérielle qui est absolument pas négociable. Vous ne pouvez pas faire entendre raison à un Serbe.
Ça veut dire qu'il y a des lieux symboliques forts qui...
Oui, il y a des lieux symboliques. Et puis dans chaque récit national, il y a des mythes, il y a des héros, des constructions, des récits. Et ça, vous pouvez pas, ça ne peut pas se traiter, ça ne peut pas se dealer sur un plan matériel, sur un plan territorial ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bah non, ce n'est pas vrai ce que tu penses. Quand ça relève du récit national. Donc ça, c'est pour la première chose. Et... Non, bien sûr, du coup, la reconnaissance du Kosovo, c'était hors de question en 2008, ça l'est toujours aujourd'hui. Mmh.
Mmh. Alors, la guerre est finie aujourd'hui, manifestement, il n'y a plus de... Non ?
Si, si, hein, tout à fait, heureusement.
Vous avez assisté, vous, à ce processus au sein des organisations pour lesquelles vous avez collaboré ?
Oui, j'y étais déjà à l'époque pour le Comité international de la Croix-Rouge, et puis d'autres mini-conflits qui ont lieu juste après, dans la vallée de Preševo, le sud de Serbie, donc, et en Macédoine. Mmh. Mais pour revenir à cette période du conflit, juste après, donc, la période que vous avez mentionnée de l'arrivée de la communauté internationale, il s'est évidemment passé des choses aussi au sein de la classe politique albanaise, des acteurs albanais qui aujourd'hui sont au pouvoir, puisque nous avons finalement un héritage aujourd'hui de leaders qui viennent d'une époque où il y a eu une résistance pacifique et ensuite parallèlement une résistance armée qui avait déjà commencé un petit à petit, et puis face à l'échec de la résistance pacifique et le fait, ce qu'a dit Loïc Trégourès, que le fait que Dayton n'a pas voulu traiter l'accord de Dayton n'a pas voulu traiter le Kosovo, il y a eu une accélération de la lutte armée, donc nous avons l'apparition de nouveaux acteurs. Et ce sont ces nouveaux acteurs issus de la lutte armée qui, en 99, se sont imposés au détriment des autres acteurs, se sont imposés aux yeux de la communauté internationale, qui débarque dans un Kosovo où il n'y avait rien. C'est vrai, il n'y avait pas d'institution, il y avait tout à reconstruire. Donc ils ont compté sur ces hommes forts qui se sont imposés sur la classe politique et qui, à travers un certain nombre de deals entre internationaux et locaux, ont fini par s'imposer comme des acteurs politiques incontournables. Et vous les avez aujourd'hui, un au pouvoir qui est aujourd'hui président et qui est l'auteur d'un certain nombre d'accords qui font le sujet de la discussion de ce soir à Bruxelles.
Okay. Oui, puisque les deux chefs de gouvernement se rencontrent en ce moment avec une haute responsable, la grande diplomate européenne.
Oui, bah c'est vrai qu'à cette heure-ci où nous parlons, Federica Mogherini, la haute représentante, est en train de dîner avec deux personnages dont je doute qu'elle les respecte énormément, mais elle est bien obligée de faire avec, donc le président de Serbie, qui écrase toutes les valeurs fondamentales de l'Europe, et un président du Kosovo, qui fait quand même de même aussi. Et surtout, Federica Mogherini se rendant compte qu'en vérité, c'est un président qui n'a certainement pas de pouvoir, qui a mis sa signature au bas d'un certains accords ces dernières années quand il était Premier ministre, et qui laisse aux autres le soin de les mettre en œuvre, pendant que lui-même est en train de cultiver son image. D'ailleurs, nous avions M. Kouchner qui faisait l'apologie la semaine dernière de ce M. Thatchi dans une scène assez ridicule. Et donc, il laisse aux autres le soin de mettre en œuvre certaines choses qui sont impossibles, en vérité, à mettre en œuvre au Kosovo.
Vous partagez ce pessimisme, Loïc Trégourès?
Alors, bon, sur ce que pense Mme Mogherini de Thatchi et Vucic, je laisse à Mme Mogherini ses pensées. Hein. Sur les choses difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, oui, c'est-à-dire si on parle de l'accord de 2013 et de l'accord Belgrade-Pristina de 2013 et de ce qu'il y avait dedans, des choses ont progressé, c'est vrai, des choses techniques ont progressé. La chose qui n'a pas progressé du tout et qui me paraît tout à fait difficile à mettre en œuvre, c'est cet accord qui devait créer une association de municipalités au nord du Kosovo, donc l'association des populations serbes du nord du Kosovo, qui est en l'impasse et je vois pas pourquoi là comme ça tout de suite, ni à moyen terme, on sortirait de cette impasse. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on parlait de Hashim Thaçi, mais de l'autre côté également, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Serbie, ce sont les héritiers directs de Slobodan Milošević.
D'accord. Donc ils poursuivent la même politique.
Alors. Pas tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tendance à penser que les gens ne changent pas, et que donc, quand on a commencé la politique et qu'on a fait partie d'une politique d'un certain régime avec un récit, avec des pratiques politiques autoritaires, etc., et qu'on n'a jamais fait d'aggiornamento, on n'en change pas. Et il faut lever le lièvre. L'intérêt bien compris des deux présidents dont nous avons parlé, c'est que ce dialogue dure le plus longtemps possible, parce que c'est une rente de situation.
En tout cas, on parlait de la guerre qui est terminée, on est d'accord sur ce point. La violence, elle se poursuit. Moi, j'ai lu dans la documentation que j'ai consulté avant ce débat l'épisode de la mort de Olivier Ivanovic, hein, qui est serbe, partisan de la réconciliation, manifestement, tué par des Serbes dans la ville de Mitrovica. C'est un coup dur pour un processus de paix, un retour à la normale?
Alors tout à fait, Oliver Ivanovic, nous sommes plusieurs à avoir connu, bon, n'a pas toujours été le modéré que l'on dit, mais est devenu le modéré, et en plus il parlait albanais, ce qui était aussi pratique. Effectivement, lui, en septembre, a bien dit que les Serbes au Kosovo, avaient surtout peur des Serbes et non pas des Albanais. Parce qu'il y a effectivement, depuis l'arrivée de Vučić au pouvoir en Serbie, il y a une reprise en main de la question du Kosovo dans le sens où ils ont réussi à créer un allié serbe au Kosovo qui s'est imposé à l'Assemblée du Kosovo, qui est en fait un parti qui, même s'il est au sein des institutions, parce que c'est ça que dit la constitution du Kosovo, il y a des sièges réservés aux Serbes, il y a des places dans le gouvernement, malgré tout, ces Serbes-là ne répondent d'abord qu'à Belgrade. Donc le cheval de Troie est à l'intérieur, déjà, au Kosovo.
Mais comment, monsieur Ivanovic et ses amis envisageaient la réconciliation, alors ?
Ce qu'il faut voir, c'est que avant effectivement cette reprise en main par Belgrade, le grand enjeu et qui fait la différence entre les Serbes du nord du Kosovo qui sont collés à la Serbie et les Serbes des enclaves qui ont toujours été dans une démarche davantage de construction avec les Albanais du Kosovo et qui eux avaient des représentants comme Oliver Ivanovic, mais Radaj Trajković et quelques autres. Eux avaient des représentants, des porte-paroles qui ont été écartés au profit des gens de Belgrade. Mmh. Et donc le drame là-dedans, c'est que les oubliés de l'histoire, ce sont les Serbes du Kosovo et ce sont tous les gens qui, bon an mal an, essayent de dire bah, « écoutez, on est devant un fait accompli, il va quand même falloir que dans la vie de tous les jours, on puisse trouver des modus vivendi et qu'on ne soit pas obligé de quitter nos terres. » C'est ça, en fait, le vrai enjeu, en particulier chez les Serbes des enclaves et chez les moines qui gardent les monastères, etc., c'est il faut pas qu'on soit obligé de partir. Et de ce point de vue-là, Belgrade joue contre eux.
Ouais. Mais est-ce que ça va se poursuivre ? Parce que les deux pays sont candidats à l'Union européenne. Est-ce que l'Europe peut aider à apaiser les tensions ? Et comment ? Sébastien Gricourt.
Alors, c'est l'idée justement de cet accord qui a été lancé donc en 2011 d'abord par un accord technique. D'accord technique d'ailleurs qui ne faisait que suivre des sujets qui avaient déjà été traités par l'Union européenne, l'énergie, les télécommunications, ces choses-là, il y avait déjà des discussions en cours. Ça, c'était pour la vie pratique. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès au passage. Ensuite, il y a eu le grand accord politique que Loïc Trigourès a mentionné en 2013, qui sont en fait les principes de la normalisation. Et l'idée, c'est d'arriver le plus vite possible à un accord réel de normalisation qui serait juridiquement contraignant pour les deux pays. L'Union européenne, évidemment confrontée à un calendrier serré où on a des élections l'année prochaine, on ne sait pas quelle sera la configuration de la Commission l'année prochaine. Federica Mogherini est évidemment intéressée de mettre à son bilan, en plus de l'accord sur le nucléaire iranien dont on ne sait pas s'il existera encore à la fin de son mandat, d'avoir une autre réussite, c'est un accord de normalisation entre la Serbie et le Kosovo. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils accélèrent des discussions qui restent finalement très formelles, très presque clandestine en vérité, où personne n'est vraiment concerné, c'est-à-dire que ce soit la société civile serbe ou la société civile du Kosovo, même le Parlement ou du Kosovo ou de la Serbie, ne sont en réalité au courant de rien, ne sont pas intégrés dans ces discussions, ne connaissent pas les contenus.
Mais quelles sont alors les exigences de l'Union européenne pour que l'intégration puisse se faire ?
Dans le dernier document de la Commission européenne, les choses sont extrêmement claires. Si la Serbie veut intégrer l'Union européenne, indépendamment des autres conditions classiques, il faudra, alors, pas reconnaître le Kosovo, les mots ont un sens, même si certains États membres insistent là-dessus, plusieurs députés ou même ministres allemands ont dit il faudra reconnaître. Le mot reconnaître n'est pas dedans, mais enfin, il faudra un accord juridiquement contraignant qui dira, sans le dire, qu'on admet l'existence du Kosovo et qui surtout empêchera la Serbie ensuite de pouvoir, en tant qu'État membre, bloquer le candidat Kosovo.
Mais ça, les Serbes, ils sont prêts ou pas ?
Je pense que tout le monde est convaincu que le seul à pouvoir le faire, c'est Aleksandar Vučić, ce qui lui offre
l'actuel président.
Voilà, ce qui lui offre un blanc-seing sur à peu près tout le reste, ce que Sébastien Gricourt a dit tout à l'heure sur ses pratiques autoritaires et tout ce que vous voulez. Donc de ce point de vue-là, il est très tranquille. Je pense que on est tous convaincus dans les capitales que c'est le seul à pouvoir le faire. Je crois qu'il est lui-même convaincu qu'il va pouvoir le faire. Je crois qu'il est convaincu aussi qu'il va devoir le faire. La question, c'est celle du timing. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement des pressions sur l'un et l'autre pour accélérer un dialogue avec, en arrière-fond, les Espagnols qui se cabrent. Et en arrière-fond également, ça a été dit, les élections de l'année prochaine, on ne sait pas comment ça va tourner. Là, cette année, il y a il y a un momentum, il y a quelque chose à traiter, mais personne ne croit que le deal final aura lieu. Moi, j'y crois pas, absolument pas. En revanche, dans 5 ans, 6 ans, why not? On pourra en reparler à ce moment-là.
Sébastien Gréco, vous voulez intervenir?
Oui, en fait, dans cette stratégie que la Commission européenne a sortie, il y a quand même 3 conditions qui sont claires et on voit mal comment on pourrait atteindre la date. On parle d'une date de 2025. En vérité, 2025, ça correspond finalement au budget pluriannuel de la Commission européenne qui veut qu'on alloue une certaine somme d'argent et notamment pour les Balkans à un moment donné. Et en fait, il y a quand même 3 objectifs. Il y a les réformes internes à chacun des États membres, des États des Balkans. Or, dans les États des Balkans, le descriptif qui est fait de l'État, justement, de la situation de l'État de droit dans ces pays des Balkans est tellement catastrophique qu'on ne voit pas comment, en quelques années, ils arriveraient à mettre en œuvre toutes les réformes. Oui. Deuxièmement, ils veulent les réconciliations, la résolution de toutes les disputes. Et il n'y a pas que des problèmes entre les Serbes et le Kosovo. Il y a d'autres histoires qui ne sont pas réglées entre les autres États. Et puis, il y a surtout le fait que l'Union européenne se prépare à intégrer de nouveaux membres. Et ça, c'est sans doute la partie encore peut-être plus longue que les autres, puisqu'il va falloir que l'Union européenne se réforme pour, comme dit la feuille de route de la Commission européenne qui était publiée en septembre, elle soit, pour être, avant d'être plus grande, qu'elle soit plus forte et plus consolidée. Or, moi, je pense que les 2 leaders qui sont aujourd'hui à Bruxelles à discuter avec la haute représentante, et je leur souhaite bon appétit à ce moment même, je pense qu'ils n'ont... Finalement, ils ont une vision de l'Union européenne assez pessimiste. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne misent pas sur une Union européenne qui sortira en meilleur état l'année prochaine après les élections. Ouais. Donc il y a un combat pour la démocratie, très certainement.
D'autant que, on peut le dire, c'est quand même un terrain de lutte, d'influence entre Russes et Américains. Russes derrière les Serbes, les Américains qui ont une base militaire au Kosovo. Comment ça se gère, ça?
Oui, alors bon, c'est un jeu dont les leaders locaux jouent beaucoup. Dans le gouvernement serbe, vous avez les gens qui sont plutôt proches de Bruxelles, les gens qui sont plutôt proches de Moscou, dans une forme de savant équilibre comme ça. C'est sûr que à chaque fois que la Russie pourra faire de l'obstruction ou mettre des petits cailloux comme ça, tant que ça coûte pas cher, elle le fera. Tant qu'il y aura pas une stratégie en face et une volonté en face, et là je pense pas tellement au Kosovo, mais je pense à l'affaire du nom entre la Grèce et la Macédoine qui doit se régler cette année. Il faudra compter sur les Russes pour essayer de faire en sorte que ça se passe mal. Donc voilà, après encore une fois, l'intérêt du président serbe et l'intérêt du président du Kosovo, dont on ne sait pas s'il sera toujours au pouvoir dans quelques temps, puisqu'on attend les inculpations de la chambre spéciale sur les crimes commis par l'armée de libération du Kosovo, en particulier, leur intérêt bien compris, c'est d'être vu comme les seuls à pouvoir faire le deal final et donc d'avoir ce bouclier, d'être l'interlocuteur aux yeux de Bruxelles.
Et dans ce deal final, alors j'ai lu la perspective ou la possibilité de rattacher la partie nord du Kosovo où vivent la plupart des Serbes, la rattacher à la Serbie. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est pas vraiment une solution plausible.
Non, ça aurait peut-être pu être pensé à un moment donné. Aujourd'hui, on voit mal comment on va réussir à faire bouger ça. Ça a fait partie des scénarios, à un moment donné, de se dire comme solution, puisque finalement, une partie du nord actuel du Kosovo, dans l'ex-Yougoslavie, cette partie était rattachée à la Serbie. Et puis une partie du sud-Serbie, qui est majoritairement albanais, était rattachée au Kosovo. Il y a eu, dans les années 60-70, un petit changement de frontière. Bon, mais ça, c'était interne à la Yougoslavie. En vérité, je vois mal comment, aujourd'hui, tout cela pourra avoir lieu. S'il y avait une accélération dans ce sens-là, l'Albanie aurait le droit de réclamer le Kosovo, du coup, s'il n'y a plus le Nord.
Ça risquerait de se propager, de créer des problèmes.
Oui, vraiment.
On n'a pas le temps d'en dire plus, puisqu'il est déjà pratiquement 20h, 21h. Alors, merci à tous les deux de ces explications. C'était très intéressant. Sébastien Gricourt, je rappelle le livre dont vous avez dirigé la publication, c'est un ouvrage collectif qui a pour titre « Kosovo, récit sur la construction d'un État ». C'est aux éditions Non-Lieu. Et puis, Loïc Trégourès, vous êtes spécialiste des Balkans et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Merci également à Florence Ponce qui a préparé cette émission et à Claude Battista qui la réalise en ce moment même. Merci à vous, amis auditeurs, de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Un nouveau jour.